Bonjour, mon nom est Olivier Arbizet, je suis directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et bienvenue à ce premier épisode d'une nouvelle série de balados qui permet en fait de diffuser nos observations que nous faisons régulièrement dans les médias mais aussi sur notre site internet. Donc encore bienvenue à cette première édition. Alors que la pandémie de la COVID-19 évolue quotidiennement ici et ailleurs dans le monde, le rythme des décisions gouvernementales est soutenu. L'imposition de mesures restrictives prend le pas sur les libertés individuelles. La gestion de la crise s'est installée comme mode de gouvernance permanent. Si depuis le début de la crise, le gouvernement du Québec a exercé un leadership visiblement adéquat pour maintenir le nombre de cas sous la fameuse courbe, l'arrivée du printemps marque l'entrée d'une nouvelle phase. À quoi faut-il s'attendre désormais et pour combien de temps? Comment la courbe et plus généralement la situation au Québec pourrait-elle évoluer? Alors aujourd'hui, nous abordons un texte qui a été publié par les membres de l'Observatoire il y a quelques jours. En fait, le texte s'intitule « Le Québec face à la COVID-19. À quoi peut-on s'attendre? Trois scénarios du protocole de mise en quarantaine nationale ». Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec François Audet et Caroline Coulombe, qui sont tous deux chercheurs à l'Observatoire. Et je tiens aussi à souligner que le texte a été coécrit avec David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke et aussi chercheur associé à l'Observatoire. Donc, merci François et merci Caroline d'avoir accepté de participer à cette balado.
Bonjour.
Alors, je commencerai par poser une première question à François. Pourquoi poser des scénarios sur les différents protocoles de mise en quarantaine nationale d'abord?
Dès le départ à l'Observatoire, on a voulu réfléchir rapidement pour soutenir les preneurs de décision et faire comprendre aussi à la population qu'est-ce qui pouvait attendre le Québec et le monde, mais surtout le Québec par rapport à cette pandémie-là. On est normalement, généralement habitué que des scénarios catastrophiques arrivent à l'extérieur. Donc là, on se met en mode de plus domestique. Et ce qu'on voulait observer en utilisant des données comparative de d'autres pays qui avaient vécu le même contexte, mais avec quelques semaines d'avance sur nous, c'était de voir quels allaient être les scénarios envisageables basés sur cette fameuse courbe qu'on voit dans les médias depuis toujours, à savoir est-ce qu'on est capable d'écraser la courbe en dessous de notre capacité de nos services de santé ou si elle éclate comme on l'a vu dans d'autres pays, notamment en Italie, et voir où est-ce qu'on peut se situer et comment on peut comprendre au jour le jour où le Québec va se situer à l'intérieur de ça. Et de faire quand même aussi des projections afin d'anticiper quels mécanismes de réaction d'urgence aux besoins et les protocoles de déconfinement éventuels qu'on veut avoir ici au Québec.
D'accord, merci. Je comprends que la situation a beaucoup évolué dans les dernières semaines et assez rapidement. Ma prochaine question serait pour Caroline. Peut-être nous expliquer le premier scénario qui était présenté dans le texte qui s'intitulait « Nous vaincrons ».
Alors, il ne faut pas oublier qu'on a écrit ce papier-là à la mi-mars, alors dans les débuts de notre situation de gestion de crise ici au Québec. Et donc, on est maintenant, un mois plus tard, à regarder ces scénarios-là qu'on a écrits. Et donc, le premier, nous vaincons, c'était vraiment dans la perspective où le Québec n'avait pas plus de 10 000 cas de COVID et arrivait à bien gérer l'ensemble de ses infrastructures médicales et que la crise, donc, serait, somme toute, dans un certain contrôle du gouvernement. Dans le cadre de ce scénario-là, qui est déjà désuet, qu'on a déjà dépassé, et en fait, qui tend plus vers un deuxième scénario qu'on discutera dans quelques instants. Donc, en fait, ce qu'on disait comme risque, alors, même dans une situation où tout se serait passé à merveille avec un nombre restreint de cas de COVID, le problème pour le gouvernement était, en fait, clairement les conséquences économiques, l'empreinte socio-politique, socio-économique, les acteurs qui ont été confinés. Donc, le jugement qu'on aurait porté sur ces actions préventives-là était quand même un grand risque politique à porter, un grand risque économique à gérer. Et donc, malgré un succès sanitaire, on peut avoir à gérer des crises en cascade par rapport à ces choix et ces actions-là. Donc, on aurait pu faire face à une situation où il y a des critiques d'action précoce trop intense par rapport à la situation. L'autre impact de ça amène en fait chez les citoyens un relâchement précoce de leur vigilance sanitaire, alors que dans le cas d'un virus, ben, faut bien faire face et bien prendre en compte que ça dure, c'est long, que même si ça, pendant une certaine période de temps on est sous contrôle, ça ne veut pas dire que le succès va se continuer dans le temps.
Comme tu le rappelais, Caroline, maintenant on a dépassé ce premier scénario. La situation actuelle correspond surtout davantage au deuxième scénario qui était exprimé dans le texte. François, pourrais-tu nous décrire un peu ce deuxième scénario et nous expliquer en quoi il correspond à la situation actuelle?
Effectivement, le premier scénario a été rapidement évacué, comme Caroline vient de le mentionner. On est donc pour ceux là, qui ont l'image de la courbe en tête, là, on est donc maintenant, puis on les voit à tous les points de presse pratiquement, à ce moment crucial-là où le nombre de cas est à peu près en corrélation avec notre capacité, notre seuil d'absorption dans nos services de santé. Donc, on a effectivement le contrôle. D'ailleurs, on a vu dans les derniers points de presse cette semaine, le gouvernement parler d'une situation de contrôle. Et ce faisant, d'ailleurs, il a amorcé, le gouvernement, donc certains plans de déconfinement. Donc, on est effectivement en situation de contrôle. Cela étant dit, la situation, elle est contrôlée, mais il y a un angle mort qui est arrivé que personne, malheureusement, n'avait pas vu venir. C'est celui des scénarios des CHSLD, donc des endroits où il y avait des populations très vulnérables et pour lesquelles, malheureusement, il y a eu énormément de cas qui compliquent beaucoup la nature de la réponse et de l'analyse des risques, effectivement. Parce que, évidemment, tant que la gestion de ces endroits où il y a encore des populations très vulnérables, et là on parle des CHSLD, on pourrait parler éventuellement des populations itinérantes ou d'autres types de populations qui sont extrêmement vulnérables. Tant qu'on n'aura pas établi des plans et des contrôles clairs sur ces endroits-là, qui étaient des angles morts au moment du début de la crise, on n'avait pas anticipé ça, tant que ça ne sera pas fait, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a la situation complètement sous contrôle. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et en date d'aujourd'hui, je crois que toute l'équipe est d'accord pour dire qu'on marche un peu sur des œufs. On est dans un contexte très fragile. Et chaque décision ou mauvais pas qui est fait par la population, qui anticipe mal ou comprend mal le dialogue, le discours, la rhétorique du gouvernement, peut avoir des conséquences excessivement graves sur le scénario numéro 2 qui pourrait éventuellement dégénérer en scénario numéro 3 qui est celui où, clairement, on dépasse la capacité du gouvernement à gérer la situation. Donc là, on est en scénario 2, en contrôle, mais un contrôle fragile. Ce serait un peu le vocabulaire que j'utiliserais. Et on voit que pour le gouvernement, on peut voir même dans les points de presse au quotidien des changements de vocabulaire d'un jour à l'autre, justement, pour que la population appréhende cette évolution-là au fil du temps.
J'aimerais peut-être rebondir sur les propos de François pour vous dire, d'un point de vue là, de comportement sociétal et organisationnel, qu'en fait, tout le monde, chacun d'entre nous et les acteurs de gestion de crise sont dans un moment de fatigue. On est fatigué. Ça a été long, c'est plusieurs semaines, c'est très dérangeant, très demandant, très bousculant. Et donc, ce qui génère peut-être parfois des allers-retours, des potentielles erreurs qu'on peut faire et qu'on peut aussi prendre par rapport à la pression économique et sociale qui se passe autour de nous. Donc, il faut vraiment faire attention dans ce scénario 2 de ne pas crier victoire trop vite. Alors, effectivement, il y a des plans de déconfinement qui sont en train de se mettre en place, mais cela, comme on disait, peut générer par ailleurs des mouvements de colère, des moments de frustration, surtout si on a à revenir en arrière. Donc, on avance à petits pas, il va y avoir peut-être des erreurs, on va critiquer ces décisions-là, alors qu'en fait, on est en train de composer, composer la réponse à la crise dans un océan d'incertitudes encore très grand. Et donc, de revenir en arrière peut causer de la fatigue, plus de frustration et plus de mouvements contestataires, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis présentement. Alors, certes, on est une population culturellement plus calme, mais ça reste un risque auquel on peut faire face. Et puis aussi, on parle de retour à la normale alors que notre équipe de recherche promeut qu'en fait, on est vers une nouvelle normalité et qu'on veut engager chacun des acteurs à repenser leur système organisationnel, leur institution, leur fonctionnement, leur processus en fonction de cette nouvelle réalité qui va être là pendant plusieurs mois, voire peut-être des années.
Le gouvernement s'apprête à réduire peut-être certaines mesures, réouvrir une partie de l'économie, malgré que la distanciation sociale devra demeurer pour encore longtemps. Vous l'avez mentionné, on est qu'au début de cette crise. Quelles seraient vos recommandations pour la phase de transition pour la suite? Peut-être pour éviter justement qu'on atteigne le troisième scénario, celui qui est le plus catastrophique. François, quel commentaire on pourrait fournir à cet égard-là?
Je vous dirais trois choses aujourd'hui et pendant qu'on enregistre ça pour les besoins des auditeurs. On est le 28 avril et ça change très rapidement. Ce qu'on peut dire, et l'équipe d'Observatoire, on est plusieurs à travailler là-dessus depuis plusieurs semaines, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que la science nous dit quotidiennement qu'il y a des informations qui arrivent alors qu'on avait cru le contraire la veille et qui défont les postulats, les hypothèses avec lesquelles on travaille quotidiennement dans cette crise mondiale-là. On sait encore très, très peu de choses et de facto, il faut y aller avec le principe de précaution. Donc, ça ne veut pas dire de rien faire, ça ne veut pas dire de rester confiné à jamais. Par contre, le principe de précaution doit toujours prévaloir sur toutes les décisions anticipées. Je considère qu'au Québec, on a pris ce principe-là et on le fait encore. L'autre élément aussi que je ferai extrêmement attention, c'est la nature comparative des sociétés qui sont frappées par le virus. On en a fait énormément des analyses comparatives depuis les derniers mois à l'Observatoire. Et ce qu'on peut convenir de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a actuellement, évidemment, on ne sait aucun pays qui a été capable de trouver une solution à ce qui se passe, mais aussi souvent de l'invalidité de la comparaison. Alors, on va dire, la Suède a pris telle mesure, ça semble fonctionner, pourquoi on ne le fait pas ici? Il faut comprendre que les écosystèmes économiques, les écosystèmes sociaux, les écosystèmes environnementaux sont très différents d'une région à l'autre et même dans un même pays, d'une région à l'autre, et les comparaisons sont à proscrire pour l'instant. Il n'y a pas de modèle réplicable. Et le dernier élément, c'est qu'il faut se préparer à revenir en arrière. Et ça, je ne crois pas que c'est quelque chose pour lequel on est prêt. Et en fait, il faut absolument que le gouvernement et que la population pensent que c'est possible, après avoir mis son nez dehors, avoir pris des marches, peut-être voir la famille, qu'on nous impose un reconfinement par la suite et des mesures pour lesquelles on pensait qu'il était terminé. Je disais tout à l'heure de ne pas faire de comparaison, mais on sait que ça s'est arrivé au Japon, dans plusieurs pays européens, des retours en arrière suite à des déconfinements hâtifs. Donc, de prévoir que ça peut arriver. Les mauvaises nouvelles sont loin d'être terminées et on a encore pour beaucoup de temps devant nous, malheureusement, dans ce contexte-là.
Effectivement, on va se souhaiter d'éviter un retour en arrière. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé vos réflexions. Je rappelle que nous discutions du texte entourant les trois scénarios qui a été publié il y a quelques temps et qui est toujours disponible sur notre site Internet si vous souhaitez aller le lire au oca.ucam.ca, donc oca.ucam.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter et vous abonner à l'infolettre directement sur notre site pour en apprendre davantage sur nos observations et nos analyses. Merci.
Merci beaucoup.